Madame le Président, Mesdames, Messieurs, chers passereuses, les fonctions assumées par Jacques Rueff à la direction du Trésor peuvent se décliner en deux temps. D'abord à la périphérie et ensuite au centre de cette prestigieuse administration financière. À la périphérie, premier point de cette communication, ici aussi deux périodes, l'intégration à l'Inspection Générale des Finances et la nomination à l'ambassade de France au Royaume-Uni. À la sortie de Polytechnique, Jacques Rueff ne choisit pas une école d'application scientifique, mais tenté par les sciences humaines, postule au concours d'entrée de l'Inspection Générale des Finances. Dès son intégration dans cette antichambre de la direction du Trésor, habité par la fonction publique, il envisage des planos d'y effectuer toute sa carrière. C'est ce qu'il fit. Les premiers travaux dans ce grand corps de l'État sont un apprentissage aride. Il s'agit d'effectuer pendant les traditionnelles 4 premières années des tournées obligatoires dédiées au contrôle des administrations centrales et des collectivités décentralisées. Au cours de la 4e année de tournée, alors que Jacques Rueff n'avait pas encore atteint la 30e, il fut appelé en tant que chargé de mission au cabinet du ministre des Finances, qui était aussi président du Conseil, c'est-à-dire l'équivalent du Premier ministre. Raymond Poincaré, qui avait été antérieurement président de la République. Celui-ci le chargea d'une tâche ô combien importante et délicate dans un univers de change devenu flottant, celle de la recherche du cours optimum de la stabilisation du franc. 3 mois plus tard, Jacques Rueff rendait son rapport après avoir ausculté toutes les branches de la production économique et proposer que le cours du franc se situe par rapport à la devise clé de l'époque, la livre sterling, et non pas le dollar, entre 120 et 145 francs. Le cours retenu par le ministre fut le plus haut de la fourchette, et par là, il ne faudrait que 120 francs pour acheter une livre. À l'expérience, il a paru que cette ambition révalorisatrice ne pouvait tenir compte tenu du fait que cela correspondait à une surévaluation des salaires par rapport à ceux pratiqués par nos partenaires dans les échanges internationaux. Et qu'il faudrait un jour ou l'autre modifier ce plafond officiel par une dévaluation du franc afin d'éviter les drames économiques et familiaux auxquels, en 1925, le retour imprudent de la livre sterling à sa parité d'avant-guerre par le chancelier de l'échiquier de Churchill avait conduit l'Angleterre. Dès l'abord, Jacques Rueff était convaincu que les solutions les plus rationnelles devaient épouser leur dimension objective si elles ne voulaient pas conduire à l'absurde. C'est ce qui arriva 10 ans plus tard sous le gouvernement de Pierre Laval, qui ne voulut pas démordre d'un fixisme monétaire désastreux pour l'ordre social. Cet épisode ne peut m'empêcher de penser qu'il serait fort judicieux que nos gouvernants puissent s'inspirer de ce précédent pour évaluer d'une façon optimale notre monnaie. L'euro, qui, comme vous le savez, ainsi que le rappelle l'article 1er du Code monétaire et financier, est la monnaie de la France. Mais tous les gouvernements, a priori, se désintéressent de la recherche de ce cours optimal et n'ambitionnent de conserve que de ramener le déficit de nos finances publiques au-dessous de la loi d'airain budgétaire de 3%, sur lequel ils se focalisent absolument, quel qu'en soit le coût économique et social, dû au maintien d'une parité surévaluée. Il faudrait espérer que l'équivalent contemporain de Raymond Poincaré soit une troïka composée de François Hollande, Manuel Barroso et Herman Van Rompuy puisse trouver sur son chemin le Jacques Rueff d'aujourd'hui qui les éclairerait sur la nécessaire détermination de la parité optimale de l'euro par rapport non plus à la livre mais par rapport au dollar. C'est au printemps 1930 que Jacques Rueff fut nommé par le ministre des Finances Paul Reynaud, attaché financier près l'ambassade de France au Royaume-Uni. C'était alors le premier poste de notre diplomatie financière dans le monde, Londres devançant à l'époque New York. Il s'agissait certes de la représentation du Trésor français auprès de la Trésorerie britannique, mais aussi de la gestion directe à partir de cet avant-poste des balances sterling détenues par la France et qui représentaient à elles seules 10% des dépôts bancaires de la place. De quoi rendre jaloux un directeur de l'agence France Trésor dont le front office aurait été délocalisé à Londres. Mais aux côtés de ses responsabilités opérationnelles, Jacques Rueff fut très vite obligé de se pencher sur de grands problèmes pour la France et l'Europe, dont la solution était déterminante pour l'équilibre politique, économique et social à moyen terme. D'abord, celui du problème des transferts et des dettes des réparations allemandes. La recherche d'une solution objective demandait beaucoup de lucidité et de courage. De lucidité, car le problème de la transférabilité, c'est-à-dire la convertibilité de la monnaie d'une place vers la monnaie d'une autre place, exige une connaissance approfondie des mécanismes de la balance des paiements dans sa composante balance des transactions courantes et dans celle symétrique des mouvements de capitaux à long et à court terme, et de leur incidence soit sur le niveau des réserves, soit sur le taux de change. De courage aussi, car à l'évidence, l'Allemagne, en dépit des accords du plan Daus, n'était pas, à l'évidence, en mesure de payer ses créanciers, ni dans le présent, ni dans le futur, et il fallait en tenir compte et expliquer cette évidence à l'opinion publique internationale. Le long échange de points de vue qui opposa Rueff et Keynes, à se vouer l'un à l'autre amitié et estime réciproque, permis de prendre la mesure de la nature des choses et de les faire avancer. Pour payer ses dettes extérieures, une nation doit produire des richesses, ne pas les consommer intégralement, c'est-à-dire les mettre de côté, afin qu'elles soient disponibles pour l'exportation, et enfin les vendre à l'extérieur à un prix compétitif afin de percevoir les devises nécessaires pour payer les dettes extérieures. Cette compétitivité passait par une dépréciation du mark, ce qui était paradoxalement interdit par le plan Daus, par les plans Daus et Young, qui avaient fixé le cadre de ces obligations issues du conflit. D'où une fuite des capitaux qui entraîna une situation désespérée de ses finances extérieures. L'Allemagne était exsangue, elle ne disposait plus de réserves de change. Ou elle dévaluait pour devenir compétitive, ou elle établissait un contrôle des changes pour stopper l'hémorragie des capitaux. Aucune de ces solutions ne fut retenue. Pour Jacques Rueff, il n'y avait pas de problème de transférabilité si le prix des produits allemands pouvait être ajusté à la baisse, soit par la dépréciation interne des salaires, soit par la dévaluation externe de la monnaie. Pour Keynes, il n'y avait pas de problème de balance des paiements si les créanciers étaient prêts à faire les fonds nécessaires pour être payés. Autrement dit, pour Keynes, la solution passait non pas par un effort des créanciers, alors que pour Rueff, elle passait par un double effort du débiteur. Afin d'éviter d'une part la chute du chancelier Brüning, dont le gouvernement n'aurait pas résisté à un plan d'austérité insupportable par le pays réel, et d'autre part des tensions chaînes sur les finances de tous les pays créanciers entraînées par le défaut de paiement de l'Allemagne, il fut multilatéralement décidé d'alléger ses obligations dont les charges de la dette furent consolidées par un moratoire des paiements de 3 ans. Les créanciers de l'Allemagne, en quelque sorte, allaient payer pour elle. Un tel arrangement nous rappelle avec acuité, à front renversé, les choix auxquels nous avons eu à faire face, notamment pour la Grèce, encore une fois, relisons Rueff. Le deuxième problème auquel Jacques Rueff s'est investi avec force et vigueur, et qui est encore ô combien contemporain, c'est celui de la montée du chômage permanent. D'abord du Britannique, par lequel le scandale est arrivé. En effet, c'est à partir d'une analyse portant sur l'évolution de celui-ci depuis 1920, qui fut publiée dans la revue politique et parlementaire du 10 décembre 1925, où Jacques Rueff constatait un parallélisme quasi absolu entre deux rapports, celui du nombre des chômeurs sur la population active, d'une part, et celui de l'indice des salaires sur celui des prix, d'autre part. En vertu de ce constat, plus les salaires augmentaient par rapport aux prix, plus le chômage augmentait par rapport à la population active. Pour Jacques Rueff, il s'agissait, face à la montée de cette courbe du chômage qui n'avait pas tendance à s'inverser, de trouver un remède à ce fléau, et cela passait par la recherche des causes de ce fléau. De ce mal qui frappait davantage l'Angleterre que ses voisins. Aussi, afin de déconnecter cette évolution parallèle, était-il pour Jacques Rueff indispensable d'inverser l'évolution du rapport salaire-prix. Et cette évolution passait pour lui par la nécessaire levée de l'obstacle à la rigidité qui découlait de la cohésion syndicale conjuguée à l'assurance chômage qui caractérisait les conditions du monde du travail en Angleterre. En effet, il existe dans ce pays depuis 1911 un système d'assurance chômage qui octroie aux chômeurs une indemnité, le fameux DEU, qui n'est pas véritablement une assurance, mais une allocation financée par des concours budgétaires nécessairement réduits. D'où la croisade pour tenter de mettre fin à cette cause pour en évacuer les conséquences. Cette croisade fut portée à son paroxysme par le fameux article « L'assurance chômage, cause du chômage permanent » publié sous une signature à 3 étoiles dans la revue d'économie politique numéro 3045 de mars-avril 1931, sur lequel des générations d'étudiants en sciences économiques ont dû solfier à la demande de symétriques générations de professeurs de sciences économiques. Cet article, paru anonymement, compte tenu du devoir de réserve de son auteur, fut traduit par Sir Josiah Stack, directeur général de la Banque d'Angleterre, dans le Times des 11 et 12 juin 1931. Celui-ci déclencha la querelle des pour et des contre la théorie Rueff, dont la véhémente charge à la Chambre des communes du ministre du Travail, Margaret Bonfield, contre cette anonymous French, dont chacun sur la place devinait l'identité, connaissait les talents à défaut d'adhérer à son diagnostic. La courbe ne s'inversa pas, mais se stabilisa pour se résorber du fait d'une reprise de l'activité économique due à la préparation de la guerre relayée par la guerre elle-même. Et à l'issue de celle-ci, la nécessaire reconstruction des infrastructures et la reconstitution des appareils de production écarta tout retour au chômage, et ce pratiquement jusqu'en 1975. Dès sa réapparition, les dommages furent à leur tour compensés, ici et là, par la mise en place de systèmes d'allocation ou d'assurance chômage, eux-mêmes impliquant un renouveau de la théorie Rueff, appelée par la nouvelle rigidité des salaires. L'on peut constater, à l'heure actuelle, une inflexion par les gouvernements d'une autre forme de flexibilité en matière salariale, la flexi-sécurité, qui nous vient de politique économique nordique et que François Hollande n'a pas ostracisé de sa boîte à outils. À l'issue de sa mission londonienne dans les structures extérieures du Trésor, Jacques Rueff réintégra en 1934 cette administration centrale qui portait alors le nom de direction du mouvement général des fonds. Deuxième point de cette communication. Il allait y exercer les responsabilités les plus hautes, et ce jusqu'en 1939, soit l'équivalent d'un quinquennat. Tout d'abord, celle dévolue de tradition au numéro 2 de cette maison, en charge des finances extérieures. À la direction des finances extérieures, dès juillet 1934, Jacques Rueff fut, dans ses nouvelles fonctions, chargé de la création du clearing franco-allemand destiné à régler les paiements bilatéraux entre la France et l'Allemagne. Celle-ci était financièrement exsangue pour les raisons que l'on sait. C'est l'existence de ce clearing qui allait permettre aux Allemands d'accumuler les recettes d'exportation pour payer leurs importations en provenance de la France. Dans ce contexte, Jacques Rueff croisa le fer avec le docteur Schacht, ministre de l'économie de Hitler et gouverneur de la Banque centrale allemande, la Reichsbank. Il put en espèce mesurer l'arrogance paradoxale du débiteur qui avait perdu la guerre. C'est ce clearing qui devait servir de base au règlement du problème sarrois. À ce titre, 6 mois plus tard, Jacques Rueff eut à gérer les négociations préparatoires au plébiscite relatif au territoire de la Sarre, lequel devait, 15 ans après le traité de Versailles, décider de son attribution définitive alors qu'il avait été rattaché provisoirement à la France. Ces négociations sous l'égide de la Société des Nations se déroulèrent dans le cadre d'un comité ad hoc composé de 3 membres dont Jacques Rueff est présidé par le baron Aloisi, directeur du cabinet de Mussolini. Les mesures d'exécution de ce référendum ne furent pas favorables à la France furent mises au point dans un traité qui pour la France fut signé à Naples en 1935 par le comte de Champlain, ambassadeur de France, et Jacques Rueff, lequel avait choisi comme chargé de mission pour l'assister un jeune inspecteur des finances, Maurice Couve-de-Murville. Je ne peux m'empêcher de penser ici qu'un autre référendum se déroulant en 1955, qui fit repasser de nouveau ce territoire dans l'orbite allemande, alors qu'à l'issue du Second Conflit mondial, nous l'avions récupéré. Il y a là contradiction de l'adage « non bis repetita ». En même temps, Jacques Rueff dut gérer un dossier multilatéral aux conséquences plus lourdes, celui de la sortie du bloc or. En effet, celui-ci avait été constitué en juillet 1933 en réponse à la décision du gouvernement américain de ne plus asseoir ses relations financières internationales sur une parité fixe entre l'or et le dollar. On pourrait se croire au 15 août 1971, jour de la déclaration unilatérale des États-Unis qui mit un terme au rattachement du dollar à l'or et entraîna la fin du système de Bretton. Aussi, les banques centrales de Belgique, de France, d'Italie et des Pays-Bas, auxquelles se joignit celle de la Suisse, conclurent un accord par lequel elles convenaient d'agir en commun pour la défense de l'étalon or et de maintenir leur monnaie respective à leur parité de change du moment. La constitution du système monétaire européen SME en 1979 mais n'est pas sans analogie avec cette réponse. Entre-temps, le gouvernement d'union nationale de Pierre Laval fut formé le 4 juin 1935 à la suite de la démission de celui de Pierre-Edouard Jordan. Laval, viscéralement anti-dévaluationniste, fit voter dans la semaine une loi tendant à défendre la parité du franc à tout prix. Pour l'élaboration du programme propre à satisfaire ce fixisme monétaire, Pierre Laval constitua un comité de 3 membres, Raoul Gautry, Joseph Gignoux et Jacques Rueff. Tous 3 commis d'office pour élaborer les mesures votées par le Parlement à la demande du gouvernement. Pour le rétablissement immédiat de l'équilibre budgétaire, il fut décidé d'une mesure grave, probablement sans précédent, un prélèvement de 10% sur toutes les dépenses publiques, y compris sur le traitement des personnels et sur la rémunération des emprunts d'État. Ce programme était rationnel, dit Jacques Rueff, mais absurde. Fort de son expérience du choix du cours de stabilisation en 1928, il entama une série de démarches auprès des membres du gouvernement, dont le président du Conseil, Pierre Laval, pour attirer leur attention sur les troubles auxquels la brutalité de ce programme déflationniste conduirait le pays, elles le furent enfin. Les conséquences se manifestèrent très rapidement. Une vague de mécontentement souleva le pays. Les élections générales du 26 avril 1936 portèrent au pouvoir un gouvernement de Front populaire dirigé par Léon Blum. Au plan interne, afin d'épouser les immenses manifestations d'enthousiasme et de stopper ab initio tout mouvement de grève susceptible de paralyser durablement le pays, les promesses électorales furent vite mises en œuvre. D'où l'accord de Matignon, caractérisé par l'établissement de la semaine de 40 heures, de l'augmentation, des augmentations significatives de rémunération gravitant autour de 40%. Inéluctablement, ces mesures de libéralisation, appelées une indispensable dévaluation, un alignement de celui-ci sur les 2 monnaies clés, le dollar et la livre. Ce qui fut fait par l'accord monétaire tripartite du 25 septembre 1936 entre la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis et entraîna par la loi du 11 octobre 1936 une dévaluation du franc. À ce stade, je ne peux m'empêcher de penser à l'analogie possible pour la France entre la réelle sortie du bloc or hier et l'éventuelle sortie de l'euro dont on parle régulièrement aujourd'hui. Et je vais même plus loin. Quelle eût été l'attitude de Jacques Rueff face à un tel dilemme? Lui, qui le premier annonça que l'Europe, fédérale entendait-il par là, se ferait par la monnaie ou ne se ferait pas? Justement par cette double affirmation, à sous-bastement interrogatif, il posait déjà la question. Pas plus que l'on ne peut augurer de l'attitude du général de Gaulle face à un problème contemporain, l'on ne peut le faire pour Jacques Rueff. La seule chose que l'on puisse dire, c'est qu'ils étaient l'un et l'autre d'un grand pragmatisme face au changement des circonstances. Dans cet esprit, ne peut-on pas pousser l'interrogation Et quand, en constatant que le sursis de 2 années accordé, je n'aime pas cette expression, par la Commission européenne à la France, pour qu'elle rentre dans le rang du symbolique 3% du déficit de ses finances publiques, ce qui revient en réalité à mettre entre parenthèses ou arrêter les pendules pour ce qui concerne le traité de Maastricht. Est-ce que cette parenthèse d'aujourd'hui ne sera pas étendue demain pour le maintien de la monnaie unique? On peut très bien, pour ce qui est de l'euro, lequel est notre monnaie, je le rappelle, et a vocation à le rester, sortir momentanément de l'accord monétaire et laisser les différents euros nationaux flotter sans entrave, c'est-à-dire sans contrôle des gens. Les pays de la zone auraient pendant cette parenthèse une seule monnaie, l'euro, mais celle-ci pourrait avoir des parités multiples jusqu'à ce que le réalisme cambière ait trouvé son équilibre et que le droit ratifie le fait. C'est le 23 novembre 1936 que Jacques Rueff, à tout juste 40 ans, fut nommé directeur du mouvement général des fonds. Au cours des 2 années qui suivirent, il eut à faire face à la nécessité d'équilibrer la trésorerie publique à court terme et de restaurer la confiance des prêteurs pour les financements à moyen terme exigés par une politique de relance conjuguée à celle d'un réarmement trop longtemps différé. La gestion de la trésorerie à court terme impliquait l'utilisation du fonds de stabilisation des changes qui avait été créé par la loi monétaire du 1er octobre 1936. Il était alimenté par des avances de la Banque de France. Sa gestion avait été confiée à un comité composé de Paul Beaudoin, Charles Risque et Jacques Rueff. Il appartenait à ce dernier, en tant que directeur du Trésor, d'être l'interlocuteur du ministre des Finances, Vincent Auriol, et des Affaires économiques, Charles Pinas. Afin de consolider la trésorerie aux abois, il fut décidé de lancer un grand emprunt au taux de 4,5% l'an, dont le capital et les intérêts étaient payables au gré du porteur en francs, en livres ou en dollars. Cet emprunt qui comportait une garantie et une option de change équivalait à un emprunt en devise. Il fut émis en 2 tranches à l'intérieur de la semaine du 12 au 16 mars 1937 et les souscripteurs rapportaient respectivement 5 milliards de francs et 3 milliards et demi de francs. En dépit de cet apport inespéré, les membres du comité, projetant la montée des besoins de financement de l'État, alertèrent le ministre sur l'urgente nécessité de procéder à un programme progressif d'économie réelle et à défaut, Paul Beaudoin et Charles Risque envisagèrent de donner leur démission. Membre à titre fonctionnel, Jacques Rueff se solidarisa avec la démarche de ses pareils, ce qui déplut profondément à Vincent Auriol. Ce dernier envisagea alors, certes avec tristesse, de se séparer de son directeur du mouvement général des fonds et de lui attribuer en compensation la présidence de la Banque d'État du Maroc si le gouvernement n'était pas renversé. Il le fut dans la nuit du 20 au 21 juin 1937, et Camille Chautan devint président du Conseil, et Georges Bonnet, ministre des Finances, Jacques Rueff demeura à la tête du Trésor. C'est ici que les choses se corsent, parce que Georges Bonnet était ambassadeur de France à Washington au moment de sa nomination au gouvernement. Et comme il n'y avait pas alors de liaison aérienne régulière entre la France et les États-Unis, il lui fallut 5 jours pour rejoindre Paris. Pendant que le ministre désigné était en haute mer, il incombait à Jacques Rueff d'assurer seul à la barre la responsabilité des paiements de l'État afin d'éviter toute cessation. Il le fit en mobilisant toutes les ressources possibles auprès des différents satellites du Trésor, dont la Caisse des dépôts et consignations. Ce qui relevait à la limite de l'expédient et demandait beaucoup d'imagination et d'autorité. Enfin, dès l'arrivée du ministre, des mesures de consolidation de la dette furent prises. Il fut envisagé des avances, cette fois-ci de la banque, plafonnées et dûment autorisées par le Parlement. Le crédit de la France avait été préservé. À l'issue de l'analyse de cette période décennale des années 30, axée autour de la pensée de l'action d'un grand commis de l'État, aux prises avec des situations parfois dramatiques dont la résolution exigeait courage et lucidité, et aux prises avec des gouvernements aux politiques souvent opposées, s'impose à moi une double réflexion. La première, c'est qu'au fur et à mesure que le temps passe, l'appréhension de la complexité de cette période de notre histoire monétaire et financière s'éloigne. Mais en revanche, les interrogations qu'elle pose, transposées dans la période contemporaine, nous en rapprochent terriblement. La seconde, c'est qu'elle porte sur un homme exceptionnel qui a été au carrefour de tous les moments clés de la période, ce qui amplifie toute l'estime et l'admiration qu'on peut lui porter. Une telle analyse appelle, me semble-t-il, la rédaction d'un ouvrage spécifique consacré à Jean Cruyff à la direction du Trésor. Je vous remercie.